Quitte à parler de jeux, de problèmes de logique, de tactique et de stratégie, nous avons la chance d'avoir un observateur du secteur, un arbitre de partie, un créateur de problèmes qui peut témoigner comment les jeux de logique et l'informatique se sont rapprochés durant les 50 dernières années. Nous recevons Pierre Berloquin, créateur du mot ludographe, cofondateur du magazine Jeux et Stratégie, auteur d'une cinquantaine de livres sur le jeu, développeur de plusieurs programmes et de jeux de test, et premier prix de clarinette au conservatoire de Tours.
CPU carré petit utile.
Pierre, quel fut le premier jeu de logique qui t'a marqué ?
C'est un jeu qu'on trouve dans les livres de Martin Gardner, qui est le jeu de l'exécution du prisonnier à qui on a dit on va vous exécuter cette semaine, mais vous ne saurez pas à l'avance quel jour. Voilà. Quand arrive le jeudi, il se dit moi ça va, je suis sauvé puisque je peux être exécuté que le vendredi. Et puis on vient le chercher, on l'exécute et il est très surpris. Voilà. Alors des livres entiers ont été écrits là-dessus. C'est le premier que j'ai repris et publié dans la rubrique que j'avais dans Sciences et Vie.
Et du coup, c'est justement toute cette perspective, à la fois sur la perception du hasard, du pari.
Oui, voilà, oui. Oui. Ouais. C'est un des aspects du jeu, oui.
C'est assez pascalien comme
réflexion. Oui, c'est un côté. Oui, oui.
Je parle de Blaise
en
Pascal.
En fait, c'est à côté de la logique, en fait. C'est un jeu plaisant.
Toi-même, tu es plutôt jeu de logique pure, jeu avec une pointe de hasard, wargame sur plateau ou jeu de rôle massivement multijoueur.
Bah, j'aime bien un peu tout, avec une préférence pour les jeux de langage.
D'accord.
Donc, je peux passer des heures à jouer au Scrabble, j'aime bien ça.
Et avec vos enfants, petits-enfants,
oui.
Quel genre de jeu en général ? Ça reste des jeux relativement simples
Des jeux de plateau, oui, des jeux de plateau à tendance logique, oui.
Ah, sympa. Comment tu es devenu auteur de problèmes et de logique ? Et surtout, comment tu es arrivé à rentrer dans la presse ?
Je n'ai pas fait d'effort pour rentrer dans la presse. On est venu me chercher. Parce qu'il n'y avait aucune presse concernée par le jeu dans les années 60. En France, il n'y avait rien. Tout ce qu'il y avait à l'occasion, pour certains journaux, même la plupart, c'est des problèmes de mots croisés, et c'était tout. Avec occasionnellement un problème d'échec ou de dame. Et puis un jour, on m'a demandé, une amie qui travaillait à Sciences et Vie, m'a demandé de rencontrer son rédacteur en chef, qui souhaitait avoir une rubrique de jeux mathématiques. Donc je suis allé le voir, on a sympathisé, et j'ai commencé une rubrique mensuelle que j'ai tenue pendant une vingtaine d'années.
Et donc, en dehors de Sciences et Vie et de Jeux et Stratégie dont on a parlé tout à l'heure,
oui.
Tu as participé à quelles autres revues ? Il y a eu des quotidiens, il y a eu d'autres types de revues ?
Oui, plusieurs quotidiens, Le Figaro, Le Monde par exemple, et des magazines comme Le Point.
Je crois savoir qu'il y avait une agence qui produisait, enfin une agence de 2-3 personnes qui produisait des mots croisés et tout ça.
Ah, peut-être, oui.
Tu rencontrais d'autres auteurs ?
Oui, bien sûr, oui. Sauf que j'ai connu pas mal d'auteurs de mots croisés qui avaient un type assez particulier, sympathique. Ils aimaient beaucoup les jeux de langage, donc on avait des points communs. Mais je ne me suis jamais mis moi-même à faire des mots croisés.
D'accord.
J'ai développé plusieurs interfaces de mots croisés pour à publier sur les sites internet, oui.
C'est quoi qui te coinçait sur les mots croisés ? Le fait que ça soit que ça soit un peu répétitif, que ça soit que compulser des listes de mots, toujours les mêmes définitions, finir la grille elle-même ?
Je suis pas contre, mais c'est un métier en soi, si tu veux. Il faut vraiment se consacrer à ça, avoir toute une culture, toute une bibliothèque de définitions, etc. Comme, par exemple, Michel Laclos, qui même a publié ses propres dictionnaires de définition, en plus de ses grilles.
Tu, donc, as été au sein de Science et Vie dans les années 70, à un moment où cette revue d'ailleurs avait une énorme audience, était assez connue.
Oui.
Comment a été créée la revue Jeux et Stratégie ? On est en janvier 80 quand sort le premier numéro.
Oui, en fait, depuis plusieurs années, notamment par exemple avec Michel Laclos qui a longtemps fait et qui est décédé, le pauvre, mais qui a longtemps fait des jeux très courus dans le Figaro, après ça, hein, dans les années 90 et 2000. Avec lui et d'autres copains, on avait envie de créer une revue de jeux. Il n'y avait rien, hein, il n'y avait pas de revue dans les gares, il n'y avait rien. Pas de revue de mots croisés, rien.
Même pas de mots fléchés ni rien.
C'est
arrivé après ça.
Oui, oui.
Waouh.
Et c'est arrivé dans les années 80. Donc dans les années 70, on avait un projet de revue sur les jeux, et dont personne ne voulait. On a fait le tour de quelques éditeurs, et le seul qui s'y soit intéressé un petit peu, ça a été Excelsior,
l'éditeur de
jeux et stratégie.
De Science et Vie, pardon.
Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que Science et Vie et le reste du groupe appartenaient à la famille Dupuis. Et les Dupuis n'étaient pas du tout joueurs, même très peu intéressés par la presse, en fait. S'ils en avaient hérité, c'était pour eux une croix à porter. C'est des gens qui avaient eu le groupe Excelsior d'avant la guerre, qui avaient fait des choix un peu malheureux pendant l'occupation, et qui avaient été interdits de publier pendant quelques années, puis qui avaient repris leur publication. Et c'était les Dupuis. Il y avait le père Dupuis, qui détestait les sciences, il ne comprenait rien du tout à quoi que ce soit. Il se forçait à parcourir les bureaux de Science et Vie, et quand on lui adressait l'appareil, il disait « Quoi ? Comment ?» Et il perdait le plus vite possible. Et après, donc, quand il est mort, son fils a repris. Et lui, bon, il a accepté de s'intéresser au jeu, ça lui semblait. Il avait quand même un tout petit peu d'intuition. Je ne sais pas, il doit être encore vivant, je pense, peut-être. Il avait un tout petit peu d'intuition et il a eu envie de faire une revue de jeu. Mais il a hésité, je me souviens des conversations avec lui qui étaient lamentables. Il demandait s'il ne valait pas mieux faire une revue consacrée aux chances de gagner aux courses de chevaux. Et puis un jour, il a décidé de faire. Mais moi, je n'avais pas envie de m'intégrer et de passer le plus clair de mon temps à gérer une revue. Donc, heureusement, il y a eu un copain dont le nom ne va pas me revenir immédiatement, et mais dont tu dois l'avoir dans tes fiches.
Non, même pas.
Ledoux, voilà, Ledoux. Qui, lui, au contraire, avait eu une petite revue d'échecs, et qui était content de continuer là-dessus. Donc, avec lui, on a fait un sommaire possible d'une revue, et il a assumé la revue. Je lui ai facilement laissé la lourde tâche de gérer la revue, ce qu'il a très bien fait, parce que étant joueur d'échecs, il aimait bien pinailler et aller voir les contenus de toutes les rubriques pour être sûr qu'il n'y avait pas trop d'erreurs et qu'on lui ferait pas trop de reproches. Donc c'est lui qui l'a fait finalement, avec moi qui passais de temps en temps, le moins possible.
Et on parle à l'époque où quand même les outils de PAO étaient pas existants dans la micro-informatique, donc
non,
c'était tout un cirque énorme. Moi, je me souviens que l'une des curiosités de Jeux et Stratégie, c'était l'encart central avec un jeu complet à découper à chaque numéro, un jeu de plateau
complet. Jeu de plateau, oui.
Mais comment était-il conçu ? Comment on pouvait avoir tous les deux mois le jeu comme ça ? Ça devait être un travail.
À chaque fois, il y avait une équipe qui s'est consacrée, quoi.
Vous l'avez débauché chez Pif Gadget ou quoi, pour avoir autant de créativité ?
Non, je pense pas que les gens venaient de Pif. Oui, j'ai connu les gens de Pif, c'est une autre histoire. D'ailleurs, eux aussi ont fait une revue de jeu, mais qui s'appelait 7 jeux. Je ne me souviens plus, qui a duré 2 mois, pas plus. En fait, ils avaient une queue de budget à éponger et ça a servi à ça. Voilà, il y avait une équipe de gens qui aimaient jouer depuis longtemps, qui étaient dans les jeux de rôle et qui étaient dans les jeux de plateau, et qui donc, tous les 2 mois, comme tu le dis, créaient un jeu. Voilà. notamment Didier Guizrix, qui est toujours dans le jeu et qui crée des jeux personnellement, qui continue.
Et qui a créé par la suite la revue Casus Belli et tout ça.
Non, c'est pas lui qui a créé, il l'a repris après, mais la revue Casus Belli a commencé d'une manière renéautée et fait par Marcella Froideval.
Feu, scénariste de bande dessinée d'ailleurs par la suite.
Oui, sans doute, oui.
Oh oui. C'était des jeux qui étaient testés à l'avance un peu, sur un public restreint. C'était l'obligation pour la rédaction de tester le jeu du prochain numéro.
Je pense, oui, je pense. Je ne m'en mêlais pas du tout.
Donc, c'était plus simple.
Faut demander à Didier Guizrix, qui est pas loin, qui maintenant vit à Moissac. Il faut l'interviewer là-dessus, il sera ravi, il a beaucoup de choses à dire.
Je n'en doute absolument pas. C'est vrai qu'en France, on a quelques jeux de plateau qui sont ceux que l'on retrouve la plupart du temps et qu'on avait pas mal hein, au bout d'un moment dans les hyper. Mais une chose qui m'avait étonné dans ce domaine de l'édition, c'est la profusion de jeux de ce type qui sont créés en Allemagne, où il y a un secteur qui est assez vivace, qui est toujours vivace, où il y a un nombre de jeux de plateau assez énorme. Comment ça se fait que là-bas, il y a une telle culture de ces jeux de plateau ?
Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est plutôt à des Allemands. Donc là-bas, il y a peut-être un plus grand nombre d'amateurs prêts à vraiment acheter des jeux, plus qu'en France. Encore que les boutiques survivent en France, donc je pense qu'il y en a suffisamment. C'est pas un domaine sur lequel je peux donner beaucoup d'informations.
D'accord. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Pierre Berloquin, ludographe, cofondateur du magazine Jeux et Stratégie. Quand t'es arrivé dans les foyers, les adaptations de jeux... des adaptations de jeux classiques en appareil électronique, qu'on a parfois appelé ordinateur de jeu ou joueur électronique. C'est comme ça qu'ils ont été appelés dans le numéro 1 de Jeux et Stratégie. C'était quoi les jeux qui, à l'époque, étaient représentés et quels étaient objectivement leur niveau ?
Ben, c'était très rudimentaire. Hein, ça, c'est ce qui s'est produit à la fin des années 70. Ouais. Donc, il y a eu des jeux de, surtout des jeux d'échecs, un peu des jeux de dames, aussi à la fin des jeux de go. Mais rapidement, ça a été. Les jeux indépendants ont cédé la place aux jeux qui se trouvaient sur Apple II ou sur ordinateur individuel.
Le portage vers les ordinateurs et les consoles a été très rapide, quoi. Ça a été un épiphénomène, ça n'est pas allé très loin. Parce que je me souviens que quand même, ce qui faisait la plaquette de ces jeux, c'est que c'était des jeux de voyage qu'on pouvait emporter.
Oui. J'ai pas eu l'impression, peut-être ma mémoire est défaillante, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un grand choix d'édition. Si tu veux, tous les éditeurs se sont dit qu'il fallait se mettre au niveau. Donc, faire des jeux, dans leur catalogue, avoir des jeux qui intègrent une puce, qui faisaient quelque chose de plus ou moins intéressant, et en général pas très intéressant.
Et l'informatique ne résout pas tout.
Non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens, si tu veux, de développer quelque chose d'intéressant, quoi. Il aurait fallu mettre une équipe dessus, il aurait fallu faire vraiment concurrence aux jeux informatiques sur les ordinateurs individuels, mais il n'en avait pas les moyens. Oui.
Toi-même, quel fut ton premier ordinateur personnel ?
C'était un Apple II, oui.
D'accord. C'était un 2E, un étendu
C'était en 79, ce qui se vendait à cette époque-là. C'était un Apple II, peut-être 2E, oui.
Avec les minuscules, alors.
Sans doute, oui.
Que
j'ai acheté chez Hillel. Place Ballard, oui, à côté de la Place Ballard.
Et c'était un ordinateur qui était
Ballard.
Pour jouer ou pour écrire, pour rédiger les articles ?
Non, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de logiciels, il n'y avait pas beaucoup de traitement de texte à l'époque. Hein. C'était pas fait pour ça. C'est venu après, dans les années après. Puisque fin 79, on pouvait faire du texte, mais il n'y avait aucun outil pour le formater. Ouais, on faisait du texte pour programmer.
De mémoire, je crois que WordStar, c'était 78 d'ailleurs, quand il est apparu. C'est le premier, premier éditeur de texte connu.
Sans doute que quelqu'un l'a fait, oui. Puis il y a eu le logiciel français qui s'appelait Gribouille.
Oui, dont on a parlé dans une émission qu'on a enregistrée sur Apple II, donc justement, tout à l'heure. Puisqu'on on enregistre plusieurs émissions dans la journée.
Oui.
Et toi-même, est-ce que tu t'es mis à coder, à programmer? Quel a été le premier programme?
Oui, c'est la seule chose que c'est la première chose que j'ai fait, oui.
Basique de suite.
Bah oui, c'était le plus abordable. Donc le premier programme a jamais été publié parce que j'en avais un usage personnel. C'était parce qu'une de mes activités dans les années 70 et 80 était la création de noms, la création de noms de marques ou de noms de sociétés. Ce genre de choses, et de noms de produits. Donc, on le faisait en groupe, et on n'avait pas vraiment besoin d'informatique, sauf que moi, j'ai décidé d'introduire un Apple II comme participant supplémentaire au groupe de travail.
Ça permettait d'automatiser la recherche de synonymes, je suppose ?
Non, parce qu'il aurait fallu avoir des dictionnaires de synonymes qui n'existaient pas à l'époque, sauf si on les avait entrés nous-mêmes. Non, pas du tout. Au contraire, il s'agissait de trouver des mots auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on entrait des mots, on faisait nous-mêmes des synonymes ou des mots, disons, dans la culture du produit qu'on voulait nommer. On entrait ces mots-là et le programme que j'avais mis dans la machine triturait ces mots et faisait des nouveaux mots à partir des racines et des syllabes, des mots qu'on avait rentrés.
Donc parmi toutes ces créations, justement, logicielles, puisque tu es à côté de l'écriture de bouquins et d'articles, il y a eu énormément de logiciels que tu as écrits, notamment en 1984, un jeu multijoueur sur ordinateur, Time City. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors, c'est là que j'ai eu l'occasion de créer ce qui ensuite a été c'est énormément développé, qui est le premier jeu de réseau avec, dans un univers persistant. C'est-à-dire que on avait créé ce qui est devenu après... ce qui ne s'est pas appelé la première année Time City, qui s'appelait Promenade dans la ville, mais qui était une ville décrite au présent, au passé et au futur. Ouais. Il y avait trois siècles différents, quoi. Et on pouvait naviguer horizontalement ou verticalement dans le temps. Et aussi, ce qui s'est révélé être une innovation... il y avait les premiers avatars. Voilà. Et moi, comme j'étais un peu au courant des religions et tout ça, ça m'intéressait, des religions exotiques. Donc, j'ai eu l'initiative d'appeler ces entités qui étaient choisies par les joueurs et qui les représentaient dans l'univers et par lesquels ils étaient vus par les autres joueurs, de les appeler des avatars. Donc, pour commencer à jouer, il fallait choisir un avatar par lequel on était représenté dans l'univers persistant. Et quand on arrêtait ou qu'on reprenait le jeu, on retrouvait son avatar à l'endroit où on l'avait laissé.
C'était du jeu multijoueur, c'était plusieurs joueurs sur le même ordinateur, c'était
non,
des joueurs
c'était quatre
en
joueurs,
réseau local
ou... Quatre joueurs sur quatre écrans qui ne se voyaient pas.
Et c'était en réseau local ou c'était via modem ?
Non, c'était en réseau local. La première installation a été à la BPI, là, une partie de Beaubourg, et reliée par des câbles, par fibre optique entre les divers postes.
Ah ouais ! Ah, c'était des beaux engins, alors je suppose, pour l'époque. Ça tournait sur quoi, alors ?
Ça tournait, au départ, ça a tourné sur Apple II. Oui.
Le jeu, il est toujours consultable actuellement ?
Non, j'ai toujours et non, il tourne plus pour l'instant parce que le réseau à l'époque, Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour faire des réseaux. Il n'y avait même pas de quoi les écrire, les réseaux. Mmh. Si tu veux, il y avait... Toi, PHP, tout ça n'existait absolument pas. Ni les... Donc, il fallait inventer les réseaux. Chez IBM, il y a des gens qui sont préoccupés et qui commençaient à jeter les bases. Mais donc, nous, on a inventé ça. C'est-à-dire qu'on avait un disque dur qui servait d'univers. Mais les images étaient stockées dans chaque... Les mêmes images étaient stockées dans les quatre machines. Le réseau, si tu veux, servait à deux choses. La première, à savoir où étaient les joueurs dans la ville. Et puis aussi l'échange, parce que les joueurs pouvaient se parler. Dans un premier temps...
Ils pouvaient chatter
Oui, ils pouvaient chatter, voilà, et se répondre quand ils étaient au même endroit. Sinon, ils ne pouvaient pas
s'entendre. Ah oui, forcément, logique, ouais.
Voilà.
Mais il me semble avoir vu qu'il y avait un site web qui était consacré et que donc il avait été adapté sur... il faut un plugin d'ailleurs, il me semble, pour pouvoir y accéder.
Le problème, c'est que le meilleur outil pour remettre ça sur le web, c'est Unity 3D. Et la première implémentation que j'ai faite, où on peut se promener dedans, mais pas tout à fait, je vais t'expliquer pourquoi... c'est en Unity, mais la Unity première époque. À cette époque-là, Unity, il fallait télécharger un player pour te permettre d'utiliser Unity.
Oui, c'était un plugin dans le navigateur.
Un plugin, voilà. Et puis, Unity a viré sa cutie. Comme beaucoup, ils ont éliminé les players. Et donc, maintenant, c'est en WebGL. Donc c'est compilé en WebGL. Sauf qu'on ne peut plus récupérer ce qu'on avait fait avant, qui devait marcher sur le player.
Il n'y a pas eu de transcodage, d'outils de portage
Non. Non, et en fait, je manque de ressources pour refaire tout ça. Quoi.
Ça, je veux bien croire.
Il faudrait que ça intéresse des gens qui travaillent avec moi, parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je suis, et que je ne peux faire qu'une seule chose à la fois... Enfin, déjà, quand je fais trois choses à la fois, ça. Ouais, mais au bout de trois, ça commence à bugger.
Ça, je comprends. C'est en closed source, donc je suppose que c'est inutile d'aller chercher le code source pour.
Oui, alors, ce que j'avais fait, justement, mais que j'essaie de remettre, il faut le refaire complètement. Malheureusement, ce qu'on a fait avec la première génération de Unity est un peu perdu. C'était en fait une galerie parlant. Exposant ce qu'avait été fait avec Time City.
Avant d'être un opposant, l'informatique en réseau a permis l'anonymat des joueurs. On dit que Bob Fischer, qui est un célèbre grand maître international américain des années 60-70, jouait anonymement aux échecs sur Internet. Tu as rêvé de te retrouver face à lui sur le net, où tu as peut-être connu quelqu'un qui s'est retrouvé face à lui.
Non, alors, pour tout te dire, j'ai très rarement joué aux échecs sur le net. D'autant que je ne suis pas un grand joueur d'échecs. Ça m'est arrivé de jouer aux échecs. J'ai joué dans des parties relativement spectaculaires, parce que j'ai joué contre Arabal un jour. Où il jouait contre plusieurs joueurs à la fois, en tournant. Mais sur le net, non. En fait, je préfère développer des jeux plutôt qu'y jouer.
Je comprends largement. En 1990, va disparaître la revue Jeux et Stratégie.
Oui.
Tu y étais encore. Tu as une idée de pourquoi ça n'a pas perduré
un peu par la bêtise de la famille Dupuis, quoi, qui était totalement incapable de continuer à le gérer et surtout à trouver de la pub pour les jeux.
Donc
pour eux, ils perdaient de l'argent, donc ils ont vendu dès qu'ils ont pu. Et ils l'ont vendu donc à un autre groupe qui l'a traité encore plus mal, donc...
Ah, d'où la refonte graphique l'été d'avant et tout ça.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Je m'en souviens, en plus, je les avais.
Oui, c'est ça, qui en a fait... qui petit à petit l'a laissé tomber, faute de combattants.
Pour dire actuellement,
oui.
Pierre, toi-même, tu t'orientes plus vers du logiciel de serious gaming depuis un temps, depuis les années 80, 90.
Oui.
En quoi le jeu devient sérieux ?
Alors, ça, c'est parce que tu es allé sur mon site, le site Créalune.
Oui, j'avoue, je plaide coupable.
Et tu n'as pas bien ajusté tes lunettes pour lire ce qu'il y avait sur l'écran.
Non, il faut que je les change.
J'ai pas mis Serious Games, j'ai mis Very Serious Games. Donc avec une pointe d'ironie. Mm. Voilà. Mais je fais effectivement du Serious Game un peu, dans la mesure où je fais, c'est une chose que j'aime bien, c'est programmer des tests et programmer des tests de créativité que je fais en connexion avec l'Université de Paris, avec la Sorbonne, et aussi en participation avec l'OCDE. Et une chose que j'aime beaucoup, on a fait programmer des jeux pour tester la créativité mathématique. Donc on retrouve là les jeux mathématiques pour ça. Et maintenant, on est en train, depuis un an et demi, à programmer des tests de créativité musicale.
Ah, intéressant. Là, il y a à faire. Il y a à faire avec toute
explosion
musicale.
En liaison avec l'Université de Paris et le Conservatoire de Sydney.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Pierre Berloquin, ludographe, cofondateur du magazine Jeux et Stratégie, pour parler donc de stratégie logicielle. Pierre, quand a-t-on réellement pu parler de machine learning ?
C'est gentil, mais je pense qu'on ne peut toujours pas en parler.
Je t'en prie, explique.
Le problème est, depuis quelques dizaines d'années, est qu'il est difficile d'avoir une idée saine de l'évolution de l'informatique. Parce que la communication qui entoure l'informatique est monopolisée par des boîtes extrêmement puissantes, genre IBM et Bill Gates et Microsoft ou Apple, qui utilisent leur pouvoir pour répandre une logorée complètement fallacieuse sur la puissance de l'informatique. Alors l'informatique effectivement fonctionne, bon, c'est une certaine puissance, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est raconté autour, quoi. Et rien que le terme d'intelligence est totalement futile, ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Il y a
la puissance de calcul. Voilà.
En clair, chaque fois que vous entendez intelligence artificielle, vous faites une grille de bullshit bingo.
Voilà, en fait, voilà.
Le sourire très large et très entendu. Ouais.
Il faut remplacer, à chaque fois qu'on entend le mot intelligence, il faut le remplacer soit par algorithme, soit par puissance de calcul. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, du tout. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Villani s'efforce à chaque fois qu'il en parle de parler d'algorithme à la place d'intelligence.
Le député La République En Marche, qui est avant tout un mathématicien.
Député, je crois qu'il est de moins en moins République En Marche, c'est de plus en plus Villani.
Et là, c'est un petit peu moins mathématicien, c'est un petit peu dommage, alors qu'il faisait des cours fabuleux.
Oui.
J'ai parlé tout à l'heure, justement, avant ce segment, du fameux bug d'agressivité de Gandhi dans le jeu Civilization.
Oui.
Est-ce que ces bugs de comportement des personas artificiels dans les logiciels, qui modifient une stratégie du tout au tout, est-ce que finalement c'est intéressant ? Est-ce que c'est un ouvroir potentiel de la stratégie ?
Oui, évidemment. En réalité, donc, quand on entreprend de jouer contre des algorithmes, il faut tirer parti de tout. Hein. On a devant soi un algorithme qui a de son côté une grande puissance de calcul. Donc, comme toujours dans les jeux, dans les guerres, dans les affrontements, il faut toujours tirer parti des faiblesses de l'autre. Et tirer parti de ces bugs, c'est de très bonne guerre, évidemment.
Celle-là, elle est jolie, elle est très jolie. Oui. On reconnaît l'homme de lettres quand même derrière. Récemment, puisqu'on enregistre quand même en été 2019, il y a moins d'un mois, si je me souviens, un ordinateur a mis au tapis plusieurs joueurs de poker professionnels.
Ah oui.
C'était déjà arrivé il y a un an, mais c'était face à un seul joueur, en un contre un. Là, il s'agit d'un ordinateur face à plusieurs joueurs, et il les a tous fait partir en slip, si je puis dire. Donc, j'ai plusieurs questions à partir de là. La première est, que reste-t-il comme jeu classique où l'homme a encore une avancée sur la machine ?
Ah. Oui, grande question.
Est-ce que pour vous aider, je ressors la liste des jeux qui sont disponibles dans le film Wargame ?
Non, ce qu'il y a... L'ordinateur a obtenu ses premières victoires contre des jeux qui sont en fait des jeux d'ordinateur, de pré-ordinateur, comme les échecs. C'est-à-dire tous les jeux fondés sur un algorithme sont évidemment vulnérables à l'attaque par ordinateur, puisque un ordinateur fera fonctionner des algorithmes plus rapidement que l'esprit humain.
Si c'est de la logique, ça passe.
C'est pour ça que sans ordinateur, c'est intéressant, parce que l'humain va essayer avec sa personnalité humaine de faire mieux qu'un algorithme qui applique bêtement de la logique de base. Donc, tant qu'il n'y a pas d'ordinateur, c'est intéressant de jouer aux échecs. Mais si on fait intervenir un ordinateur, il faut immédiatement arrêter de jouer aux échecs. Ça ne veut rien dire. Non, c'est vrai. C'est comme un peu essayer de courir à pied et d'essayer de gagner contre une Ferrari. Ça rime à quoi ? Bien sûr que la Ferrari va aller plus vite. Et alors ? On n'a rien prouvé. On a prouvé que l'homme va un peu moins vite qu'une Ferrari. Ah, bravo.
Surprenant. En tant qu'opposant virtuel,
oui,
l'ordinateur peut-il et doit-il mentir aux humains ?
Si vous l'avez programmé pour mentir, il va mentir. Sinon, là, vous êtes en train de lui donner une personnalité qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais.
Est-ce que finalement, on a un risque à leur apprendre à mentir, ou est-ce qu'il faut justement apprendre à ne pas se fier à un ordinateur ?
Faut jamais se fier à un ordinateur, de toute manière. Toujours vérifier ce que l'ordinateur vous propose et... Comme toute machine, hein. Bon, mais apprendre à mentir, apprendre un ordinateur à mentir, c'est une expression qui n'a pas de sens, parce que vous avez utilisé le mot apprendre et que l'ordinateur n'apprend pas. Vous le programmez pour faire une chose ou une autre, penser qu'il va apprendre à apprendre, c'est un non-sens. Bon.
Et ma troisième question, donc, sur cette réussite au poker. Est-ce que tenter une injection SQL ou XSS dans un jeu en réseau fait-il partie du jeu ?
C'est pareil. Ça fait partie de... Vous pouvez toujours donner un coup de pied dans la machine pour être plus sûr de gagner. Ça dépend ce qui vous intéresse dans la vie. Si ce qui vous intéresse, c'est d'essayer d'être plus fort que le programmeur... Oui, quand vous jouez au billard électrique, vous pouvez toujours essayer de gagner en changeant l'horizontalité du jeu. Ou...
Alias soulever les pieds devant. Ouais. Oui.
J'ai vu un joueur arriver dans un café un jour, et il avait dans les poches des dessous de bière, vous savez.
Oui, les sous-bocs, ouais.
Voilà. Alors, il mettait devant la machine, il en jetait un de chaque côté, il soulevait la machine avec les pieds, il mettait sous les pieds de la machine, et il commençait à jouer. Alors, évidemment,
mais est-ce que tu es sûr que c'était pas pour caler la machine, des fois, qu'elle était pas stable ?
Non, je suis certain que non, c'est évident, oui.
Ou qu'il y avait des calembois sur les pieds derrière, oui, aussi.
Voilà.
Dans tes dernières créations, et tu en as parlé rapidement tout à l'heure, tu as participé à la conception de Creative Profiler, donc il s'agit de cerner l'intelligence mathématique, enfin la créativité mathématique et la créativité musicale.
Oui, la créativité plus générale dans le travail en équipe.
Est-ce que tu veux bien nous en parler plus ? Comment tu décides de chaque paramètre ? Il y a toute une équipe avec toi ? Il y a des spécialistes ou il y a du pif ?
Oui, Oui. C'est un outil qui est en cours d'élaboration, de développement plutôt. Mmh. Donc, pour commencer, c'est en fait une collection d'une quinzaine de tests différents et auxquels on répond sur écran. Mais moi, mon travail a été d'abord de mettre les tests sur l'écran de manière interactive et surtout de travailler l'immersion pour que la personne qui passe les tests soit de plus en plus concernée par le test et laisse le monde extérieur loin et évite d'être sollicité. Oui. Mais sinon, disons que dans un premier temps, c'est un peu la même chose que d'avoir un paquet de tests sur papier et puis de les feuilleter les uns après les autres en cochant les cases. Quoi. Mmh. Mais sauf que là, je dis, ce qui n'existe pas avec le papier, c'est l'immersion. Et donc il y a en cours d'élaboration la version 2.0 avec beaucoup plus de questions interactives.
Pierre, pour terminer cette interview, je ne vais pas te demander quel jeu tu adores jouer, mais plutôt quel jeu tu préfères jouer sur ordinateur plutôt que sur une table face à des joueurs humains.
Ah oui. Est-ce qu'il y a des jeux que je préfère jouer
face à une machine qu'à des humains ou à un opposant virtuel?
Ah oui.
À ne pas savoir si c'est d'ailleurs un humain ou une machine en face.
Ah oui, oui. Oui, je ne m'étais pas posé la question, donc je préfère, pour l'instant, je préfère, moi, jouer avec des humains devant moi, oui.
Et ouais. Donc pas une préférence pour aller vers non, le
titre. Ben, disons que ça, c'est pour les jeux que je suis en train de mettre en place et qui n'existent pas encore.
Tout un programme.
Voilà, mais qui vont exister dans les mois ou les années à venir.
Pierre Berloca, merci pour cette heure jouée avec nous. Et donc, je souhaite que tu vas pas un peu profiter de l'Apple II Festival France.
Merci et merci de m'avoir écouté pendant si longtemps.
C'est un plaisir.